I believe in yesterday, cet enthousiasme, cette envie d'aller vers demain comme un aller simple. Lundi matin, il a fallu recommencer, il a fallu retourner. Qu'est-ce qui t'a réveillé ce matin? Qu'est-ce qui te tient debout? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller? Est-ce les ombres de la nuit, les morsures de l'aube ou la caresse du printemps? Les obligations, les ronds, le pognon, les patrons? Ou les nions que tu te mets toi-même dans la tête? Est-ce le goût de vivre ou la peur de dormir? La peur du noir, la noirceur? Ou l'envie, le soleil, les sourires? La fraternité ou le combat? Les mains à serrer ou les coups à donner? Les coups à pleuvoir, à recevoir, il pleut sur toi et puis l'espoir. Qu'est-ce qui te tient debout? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller? Est-ce le vieux monde qui court derrière toi qui veut te rattraper? Est-ce un aimant qui te tire vers l'avant? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te tient debout? Mais une fois qu'on est là, qu'on marche, qu'on est réveillé, que le soleil est ta fraternité, alors ce moment-là, tu avances. La vie est comme la révolution. La révolution est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe, avance, marche, cours. Vie, rêve, meurt, ressuscite. Allez, allez, bon lundi. Bon lundi à tous, à nous. Salut, à tout de suite. Thierry Paret, bonjour.
Salut,
est-ce qu'il y a déjà des jeux de mots avec votre nom de famille?
Ah, pff, il y en a des tonnes.
Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire de très drôle avec Paret?
Non, on m'a fait souvent le... Ouais. Bon, pas souvent, mais il y a Paret, qui apparaît à Paris.
Ouais. Ça a gâché votre vie scolaire a été gâchée par ça.
Ah bah ça et Claude François.
Ça a été l'école Buissonnier. Ah, avec Claude François?
Ah oui, aussi, les deux m'ont gâché.
À cause de votre ressemblance physique avec Claude François?
En partie, non, parce que je l'ai trop entendu dans les mariages.
Bah oui.
Définitive, à l'époque, dans les années 80, 70.
Les gens doivent arrêter d'avoir la nostalgie des émissions des Carpentiers, c'était insupportable.
Moi, je dirais plus c'est Jérôme plutôt que Claude François.
Bonjour, je ne peux pas te laisser dire ça parce que c'est Jérôme, j'étais fan.
Alors attendez, les croissants arrivent à 7h03. Viens avec les croissants pendant le journal. Thierry Paret, 7h03.
Les Guyanais vont franchir une nouvelle étape aujourd'hui dans leur mobilisation. On ne pourra pas reprocher à Nova de ne pas en avoir parlé déjà depuis une semaine. Les 37 syndicats réunis au sein de l'UTG pour l'Union des travailleurs guyanais ont voté à l'unanimité la grève générale à compter d'aujourd'hui. Un mouvement social d'ampleur rythme la vie de la Guyane depuis maintenant plus d'une semaine. Le gouvernement a décidé d'envoyer sur place non pas la ministre concernée, qui s'appelle Erika Barrecq, mais une délégation de responsables pour une mission interministérielle. Délégation dont les grévistes, enfin du moins leurs représentants, ont refusé de reconnaître la légitimité. Ce mouvement de protestation, il regroupe des salariés d'EDF, des collectifs contre l'insécurité, dont celui des 500 frères. Vous avez peut-être vu la télé, hein, cagoulé, vêtu de noir. Un collectif dénonçant l'insuffisance de l'offre de soins et les retards structurels en matière de santé ou encore des socioprofessionnels, des transporteurs. Bref, une dizaine de barrages sont obstrus depuis jeudi maintenant, une dizaine de ronds-points stratégiques du littoral guyanais, bloquant notamment l'entrée de Cayenne. Il faut savoir qu'il y a 22% de chômage, enfin le taux de chômage est à 22% en Guyane. Quand l'ONU entend interdire toutes les armes nucléaires, des premières négociations vont s'ouvrir aujourd'hui, conformément à une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre dernier, donc juste avant Noël. De quoi prendre à contre-pied Vladimir Poutine et Donald Trump, hein, qui ont fait part de leur volonté de relancer la course aux armements nucléaires, tout comme la France d'ailleurs. À Moscou, mais aussi à Saint-Pétersbourg, à Tioumen, Oufa, Samara et aussi Vladivostok, d'un bout à l'autre de la Russie, des milliers de personnes ont marché contre la corruption hier, suivant le mot d'ordre lancé par Alexei Navalny. L'opposant, candidat à l'élection présidentielle de 2018, dénonce notamment l'empire immobilier que serait constitué le Premier ministre Dimitri Medvedev. La police a procédé à plusieurs centaines d'interpellations, notamment à Moscou, dont celle de l'opposant Navalny.
Voilà, vous avez marché, vous, Atmen, vous en foutez la corruption, vous restez, vous marchez pas.
Non, mais par contre, il y a un mot qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, c'est Medvedev, le type. Là.
Medvedev,
oui. Ça vous manquait, vous pourriez marcher. Je vais te faire courir, au cas.
Il est Premier ministre, pourtant. Des milliers de personnes ont battu le pavé aussi hier au Brésil pour protester contre l'impunité des politiciens. La mobilisation a été moins forte que lors des précédents rassemblements de ce type. La CDU, l'Union chrétienne démocrate de la chancelière allemande Angela Merkel, est arrivée largement en tête des élections régionales organisées hier dans la Sarre. Selon les premières estimations, les conservateurs dépasseraient la barre des 40%, devançant de plus de 10 points le Parti social-démocrate, le SPD, qui atteindrait lui tout juste les 30%. Les États-Unis affirment avoir repris au groupe État islamique le contrôle de l'aéroport militaire de Tabqa, dans le nord de la Syrie. Et puis, on ne connaît pas le montant du contrat, mais a priori, il est important, hein, comme souvent dans dans ce type de transaction. L'équipementier allemand Puma vient de s'unir à l'Olympique de Marseille, une union pour 5 ans au moins, à compter de la saison prochaine, à l'exception d'une courte parenthèse entre 94 et 96. L'Olympique de Marseille a eu pour partenaire toujours Adidas depuis 74, donc c'est dire si c'est un changement symbolique très important.
Très bien, c'est quoi ? Je vois, Tito, vous avez un truc là, des vieilles factures. C'est des transports Aftran à Reims, c'est rue Maurice Hollande. Oui. C'était qui Maurice Hollande ?
Alors Maurice Hollande, je sais
c'est
pas.
C'est la famille du président ?
Bon, ça doit être.
Vous recevez des factures qui ont une adresse, si vous voulez, et vous ne connaissez pas le pourquoi du comment de cette adresse a été donnée au nom de quelqu'un.
Certaines personnes ont plusieurs prénoms.
Mais soyez citoyen. Vous avez d'autres choses, vous autres, ou pas ?
Oui,
mais on a plein de choses.
Il y a de très mauvaises humeurs ce matin. On va avoir Dominique Reynier très tôt parce qu'il doit aller faire des conférences extrêmement importantes.
Il doit aller chez le tailleur s'acheter un costume.
Non, on ne s'achète pas des costumes, on a des amis. À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Armel, vous êtes rentré de vacances et vous nous passez ce beau morceau, mais qui est-ce ?
Bonjour, pardon. Avec mon micro, comme ça on m'entend. C'est Malik et Judy dans le cadre de la programmation musicale de Radio Nova.
Dans le cadre alors, voilà, hein, ça, je me le note bien pour penser à redire cette phrase.
Et alors le morceau c'était Sous Garantie.
Vous sous Garantie, voilà. Alors bonjour Dominique Reynier.
Bonjour Edouard.
Dominique, c'est bien que vous soyez là tôt ce matin, d'abord ça vous arrangeait parce que je sais que vous avez des conférences à donner, c'est dire à quel niveau dans la république intellectuelle vous êtes. Vous êtes arrivé déjà à des sommets, après il ne reste plus qu'à descendre tout ça par les marmottes, qui est la piste bleue, qui est agréable. Mais... Et puis je pense qu'on peut s'adresser à l'intelligence de l'auditeur dès 7h11, c'est une heure entre deux cafés, entre trois douches et quatre croissants, on a envie tout à coup de rentrer dans la matière grise et c'est pour ça que vous nous faites l'honneur d'être là. Dominique, vous m'aviez dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de l'Europe, quand même. C'est le 60e anniversaire du traité de Rome qui est le traité fondateur de l'Europe tel qu'on la connaît. Et on en parle très peu dans la campagne, alors que c'est sans doute un des éléments déterminants de cette élection, puisqu'on imagine bien que qu'il y a plusieurs candidats qui sont vraiment contre l'Europe, que l'un des pays européens est parti de l'Europe, mais il est difficile de parler d'Europe à la télévision.
En tout cas, c'est la première fois sans doute que l'Europe est à ce point absente d'une campagne présidentielle. C'est pas un sujet que les candidats aiment beaucoup, parce que par définition, ça suppose un pouvoir ailleurs qui participe de la décision. Or, le mythe de l'élection présidentielle, c'est que nous allons choisir celle ou celui qui va décider de tout. Donc il y a une espèce de contradiction, de gêne de la part des candidats. Il y a une deuxième raison qui est qu'on sait que depuis quelques années, les candidats qui sont très hostiles à l'Union européenne, qui la combattent, qui veulent même voir sa fin, représentent une partie importante des votes ou même aujourd'hui des intentions de vote. Si on fait le total de ceux qui veulent voter pour les candidats anti-Europe aujourd'hui, on n'est pas loin de 40-45% des intentions de vote. Donc les autres candidats du coup sont très prudents. Et par timidité, par une forme de lâcheté aussi, ne veulent pas aborder ce sujet qui est pourtant décisif.
C'est très intéressant ce que vous avez dit sur cette idée, cette peur de parler de choses supranationales pour l'élection présidentielle. On ne parle pas de l'Europe, on parle assez peu du monde finalement, on n'a pas parlé des États-Unis beaucoup, on ne parle pas des multinationales non plus, et il y a des visions un peu christiques des candidats. On a l'impression que Macron se présente comme un candidat qui pourrait marcher sur les eaux pieds nus, Mélenchon fait des spots de campagne où on le voit en train, il y a des enfants africains qui meurent de faim, il y a des usines, on a l'impression qu'il va être dans la tautologie, qu'il va résoudre les problèmes du monde. Fillon a l'air aussi de nous promettre un nouveau monde. La modestie, ça ne va pas avec l'élection présidentielle.
Non, vous avez raison, Edouard, ça ne va pas du tout avec ça. C'est la grande tension qu'il y a dans ce que promet cette élection. On dit souvent, la formule est répétée depuis longtemps, elle a un côté ridicule ou effrayant, hein. Aller à la rencontre d'un peuple, un homme qui rencontre un peuple, un peuple qui choisit son chef qui ensuite accomplira sa mission d'amener tout le monde vers plus de bonheur, plus de confort, plus de satisfaction, plus de puissance, etc. Évidemment, c'est pas comme ça que les choses se passent dans la réalité. C'est une élection qui, dans sa construction même, fabrique très tôt une déception immense. Il n'est pas raisonnable d'attendre cela. L'élection elle-même fabrique cette déception, cette espèce de désillusion qui systématiquement vient, évidemment, de plus en plus tôt d'ailleurs. Et donc il faut relancer cette croyance à chaque élection présidentielle. Là, cette fois-ci, sur l'Europe, ce qui est très compliqué, c'est que l'Europe est secouée, on le voit bien, vous le disiez, pour la première fois, un des pays membres de l'Union quitte l'Union européenne, le Royaume-Uni. Il y a des pays qui ont des idées assez agressives contre l'Europe, que ce soit les États-Unis de Trump ou la Russie de Poutine ou encore la Turquie de Erdogan. Donc plusieurs grandes menaces quand même se sont levées. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Union européenne que des menaces convergent ainsi et qu'il y ait des puissances qui aient pour projet de faire de l'Europe leur nouveau terrain de jeu en comptant sur la division des Européens, leur affaiblissement. C'est une situation qui est sur le plan historique très impressionnante.
Est-ce que dans le monde moderne, il y a encore des menaces géographiques sur l'Europe ou les menaces sont juste économiques ?
Non, non, ce sont des menaces géographiques et même de type militaire. Il est clair que Poutine, depuis Moscou, cherche à retrouver sur les pays baltes, par exemple, une liberté de manœuvre qu'il n'a plus à cause de leur appartenance à l'Union européenne et de leur intégration dans l'OTAN. Donc il souhaite que tout ceci soit affaibli. Il y a même, ça a été dit par le ministre Lavrov récemment, il y a même ce projet de désoccidentaliser le monde qui passerait par une finlandisation de l'Europe, cette idée de neutraliser l'Europe et d'en faire une espèce d'espace, une sorte d'espace que les Russes pourraient contrôler. Donc c'est un vrai projet.
Vous pensez que les Russes vont nous prendre la Lorraine, les Anglais la Normandie, les Espagnols vont nous prendre tout le Sud-Ouest ?
Non, je pense en tout cas que les puissances non européennes, comme je l'ai dit, la Russie, la Turquie et les États-Unis, hein, qui ont Trump a une vision de l'Europe qui est extrêmement négative. Il souhaite lui aussi son affaiblissement. Ça a été dit récemment, il souhaite des Brexit partout. Hein, et même on peut penser que pour certaines puissances, il y a une action en ce sens. Les Russes soutiennent des partis populistes, on le sait. La Turquie s'efforce d'agir en faveur des partis anti-européens. Ça a été fait récemment par Erdogan aux Pays-Bas. Il n'y est pas arrivé, mais il a soutenu activement Geert Wilders. Donc c'est tout un monde de menaces qui est inédit, hein, et qui fait qu'on devrait en parler pendant la campagne.
Cette image très poétique de Marine Le Pen allant voir Trump à un mois des élections, tout, c'est
oui.
Vraiment...
Et comme il était dit tout à l'heure dans
votre... Poutine.
Et j'avais d'ailleurs entendu Poutine moi-même. Et comme vous l'avez dit dans votre journal ici, pendant qu'on arrête 700 manifestants qui protestent contre la corruption en Russie, et on ne comprend pas pourquoi Marine Le Pen, ça sera sans doute son seul voyage, va voir Poutine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est la signification d'un tel voyage ? Peut-être pour financer sa campagne.
Merci Dominique. Vous voulez dire quelque chose, Thomas Baumgartner ?
Mais justement, ce que vous sous-entendez là, Dominique Régnier, c'est que les liens réels ou supposés de certains candidats, par exemple avec les dirigeants russes, contribuent justement à opacifier le propos autour de l'Union européenne dans la campagne française.
Oui, dans la campagne et dans les campagnes européennes. Juste un fait qui est public et que vos confrères journalistes ont rapporté à juste titre. Il y a eu il y a quelques semaines à Moscou un accord qui a été signé entre le parti de Poutine Russie Unie et le FPE, qui est le parti d'extrême droite autrichien. Ils ont signé officiellement un accord de coopération et d'échange. Donc il y a un engagement qui est maintenant très, très actif de la Russie de Poutine auprès de toutes les formations anti-européennes, les populistes de droite ou de gauche, et les formations séparatistes qui cherchent à quitter, à organiser la sécession au sein de leur pays pour fonder une nouvelle nation et affaiblir ainsi l'Union européenne.
Merci Dominique pour ce message d'espoir et de tendresse. Je vous appellerai donc Domino pour vous dire bonne journée. Il y avait cette chanson Domino, mon cœur chante, nanana, Dominique. Je ne sais pas ce que ça amène au
débat. Dans le cadre de la programmation de Nova.
Bien sûr, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird. 7h, 9h, oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien. C'est très mignon là, c'est ouais, lui bon. Son mec. Ma fille adore ce morceau. Alors,
moi je connais le mec dans le cas, il est pas prêt à me faire
non,
mal.
Non, mon vieux, c'est de la fiction. c'est de la fiction. Alors,
c'est très baraqué quand même.
Je crois que c'est l'heure du club des connoisseurs.
Avec Jenny.
En fait, on peut remonter le casque. Les connoisseurs, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi leur ouvrir l'antenne? Parce que ce sont non pas des puits de science, mais des puits d'enthousiasme et de curiosité. À ma droite, Marie Missé qui est en train de préparer sa revue de presse et qui a la gentillesse de quand même venir pointer le bout de son nez très tôt. Thomas Baumgartner, cet honneur de la culture française et de l'intelligence. Christophe Méné, cette tendresse comme ça. C'était quelqu'un que j'ai encore surpris qu'envoyer un chèque de 10 euros au fisc.
C'est vrai.
Atmen Kelly, en décalage, on ne le présente
plus. Tout petit peu décalage avec le changement d'heure, je ne suis pas réveillé.
Oui, c'est ça. Dans une heure, vous serez dès 9h, vous serez bien. Et puis Tito, le correspondant local qui est toujours à Paris. Tito du lac d'Ourta, vous n'avez pas vu votre lac depuis combien de temps?
Oh, mais ça fait 3 semaines. Là.
Tito, vous êtes allé au salon du livre ce week-end. Il y a plein de choses. J'aime bien le mec qui survend un peu. C'est comme à la télé. C'est formidable. Il y a eu plein de trucs. On est surexcités. Ouais. Bien sûr, Armel qui a le micro vert.
Ah,
et Eugénie Poumaillou. Qui organise des missions et qui là est dans un état ce matin. On va pas se faire emmerder parce que c'est une heure de décalage. Eh ben oui, il y a une heure, mais grâce à ça, il fera jour plus tard. Vous pourrez aller au bistrot. Tito, le salon du livre.
Eh oui, du 24 au 27 mars, comme chaque année maintenant, mais il y a le salon du livre, très très gros salon.
Alors vous étiez aussi au salon de l'agriculture, vous irez aussi au salon de l'auto. Quelle est la spécificité du salon du livre par rapport aux autres?
Alors par rapport aux autres, il y a un point commun entre le salon de l'agriculture et le salon du livre, c'est que ça sent bon. Ça sent bon dans ces deux salons. Il y en a un là-bas, quand tu vois le salon de l'agriculture, ça sent un peu l'animal, le foin, etc. Et là-bas, quand tu vois le salon du livre, ça sent rien quand tu traverses les stands et quand tu arrives au bout, parce que cette année, c'était à l'honneur le pays marocain. On arrivait au salon du Maroc et donc ils avaient fait un stand magnifique avec plein de livres, plein d'étagères. C'était vraiment très, 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 très beau. Et à droite, de belles tentes berbères et où ils faisaient à manger et ça sentait les épices. Ils avaient tout amené de là-bas, leurs livres et aussi leurs cuisiniers, leurs machins.
J'ai l'impression que cet terrible. Aspect-là vous intéressait aussi, Tito. Est-ce que vous êtes allé au salon du livre ce week-end pour bouffer?
Un petit peu, oui.
Voilà, aussi, ouais. À la moitié.
Et il va au salon de l'agriculture pour lire.
Oui, et c'est au salon de l'auto pour les hôtesses qui n'en peuvent plus. Les hôtesses du salon de l'auto, il y a des interviews d'elles, elles n'en peuvent plus.
Oui, voilà, le salon de l'auto,
Tito,
c'est
vrai qu'il y avait Nabila au salon du livre, j'ai vu ça.
Non, parce que j'ai vu Francis Lalanne, j'ai vu Roselyne Bachelot. Il y a des dédicaces partout.
Il y a des dédicaces.
Voilà, tout le monde fait des dédicaces.
Ce matin, il y a le journaliste du journal Le Parisien qui raconte qu'il a écrit un livre, qu'il a vendu 4 livres.
Oui, je l'ai vu là-bas. Vavasseur, Pierre Vavasseur.
Vavasseur, le critique, j'ai vu 4 livres.
4 livres, ben.
Dont 2. D'autres gens sont allés au salon du livre ou pas? Ça s'appelle plus salon du livre, ça s'appelle
Livre Paris.
Livre Paris, ça change tout.
Ouais.
Les nouveaux.
C'est une marque.
Salon.
Moi, je voudrais raconter quelque chose. Il y avait une vente à Drouot samedi qui était le sextoy de
les ventes aux enchères. Oui.
Il y avait le sextoy de Mistinguette, qui est en bois de hêtre de 33 cm et qui a été moulé sur l'appareil de Maurice Chevalier, son amant. Qui partait à la guerre et qui lui a fait un objet pour qu'elle puisse ne pas s'emmerder.
Voilà, c'est tout ce que vous avez retenu. Le monde est à feu et à sang.
Tu
finiras chroniqueur dans une émission sur W9.
Avec Paul Vermus.
Avec des rires un peu gras.
Ça me faisait rire quand partait la guerre.
Mais oui, mais le problème, c'est que ça amène un rire gras.
Ce genre de rire. C'est une info de première main.
Non,
Mistinguette. Alain Sextoy, moulé de 33 cm sur l'alcool. De Maurice Chevalier, quand même.
Non, il y a un côté Bernard Mabille dans votre truc. Il y a un côté les grosses têtes, RTL, après il y a un côté.
Mais vous aimez ça, vous m'avez dit de le dire.
Excusez-moi, mais.
Christophe,
moi j'ai lu ce matin dans 20 minutes, il y a un anniversaire, personne n'y pense.
C'est dans 20 minutes?
C'est dans 20 minutes.
Attendez,
voilà,
un jeu de mots de toi, bon
gars. Excusez-moi. Voilà.
Vous voulez dire.
Ouais, vas-y.
Oui, c'est entre le support, le journal 20 minutes.
Et puis la durée temporelle.
Là, il a fait du Bernard Mabille.
C'est mon petit Baumgartner.
Il l'a fait avec élégance, c'est pas pareil. Non, c'est l'anniversaire de la Nike Air Max, voilà, qui a 30 ans, elle a eu 30 ans hier. Et alors, donc, il nous explique comment ça s'est passé. Donc, tout a commencé un matin de mars 1977, donc il y a 40 ans en fait, quand Phil Knight, le fondateur de Nike, reçoit dans son bureau Frank Rudy, qui n'a pas de chance avec son nom, et Bob Borgert, deux créateurs, et il leur lance la célèbre phrase. Alors les gars, qu'avez-vous à nous montrer?
En anglais tout ça, bien sûr.
Et là, ils répondent, les mecs. Mr. Knight, nous avons trouvé la façon d'injecter de l'air dans des baskets. Mais pourquoi? Leur dit Knight, et c'est vraiment écrit ça, hein. Pour avoir un meilleur appui, lui lance Rudy. J'avais déjà entendu des quantités d'âneries dans le milieu de la chaussure, mais là c'était le pompon, confie Knight. Bon, finalement il finira par leur faire confiance, et 10 ans plus tard, le 26 mars 1987, Nike présentait au monde la première Air Max One.
C'est très beau d'imaginer ce bureau là-haut, de même qu'il y a Silicon Valley, il y a la Basket Valley aux États-Unis. Ce sont des nouvelles sociétés, des compagnies entièrement consacrées au bien-être des pieds, dans un bureau qui est sans doute un open space réservé à 3 personnes, mais qui peut en contenir 600. C'est 3 hommes qui sont là. Mais alors, c'est comment ils avaient quoi aux pieds à ce moment-là?
Des baskets plates,
des baskets sans air dans les semelles.
Et vous savez pourquoi ça s'appelle Nike? Personne ne le sait.
C'est une déesse.
Athéna Nike, qu'il avait vu à l'Acropole, il s'est dit je garde Nike de Nike.
C'est mieux ça.
Ouais. C'était plus intéressant.
Marie Missé.
Maurice Chevalier, 33, comme
oui. Bonjour. Alors, moi, j'ai lu quelques... Non, en fait, tout le monde revient un peu ces derniers jours dans la presse sur la défaite de Trump avec sa guerre contre l'Obamacare qui n'a pas été gagnée. Il n'a pas eu les votes des Républicains. Sauf que ce que pas beaucoup de gens disent, en tout cas, ce qui ressort pas beaucoup, c'est qu'il n'a pas gagné parce que les Républicains voulaient garder l'Obamacare. Au contraire, c'est le Tea Party qui a gagné dans l'histoire parce qu'il voulait abroger... il trouvait que l'abrogation de Trump n'allait pas assez loin, que c'était pas assez contre l'Obamacare. Voilà, moi je trouve qu'on l'a pas beaucoup dit, en tout cas c'est pas beaucoup ce qui ressort. On dit ils ont pas réussi à supprimer l'Obamacare, mais on dit pas que c'est à cause de l'aile la plus extrême des Républicains.
Moi ce que j'ai surtout vu là-dedans, c'est un problème qu'a la presse en général, c'est la présentation du sujet. Au lieu de dire, pour moi le sujet c'est les Américains vont pouvoir bénéficier encore de l'Obamacare, c'est-à-dire de la sécurité sociale, tous les journaux...
Échec majeur de Trump,
il a raté, incapable d'abroger, on imagine ça pendant la guerre, Hitler incapable d'imposer son... Enfin c'est incroyable de présenter les choses comme ça. C'est une bonne nouvelle. Ça n'est pas... Les mauvaises nouvelles pour Trump sont pour moi des bonnes nouvelles. Voilà. Salut, qu'est-ce qu'il y a? Le journal de Thierry. Ah oui, bon alors écoutez, alors voilà. Il a plus pour Thierry Paré. Thierry Paré.
Que demain le grand bite.
Le temps qu'il s'installe, qu'il trouve un chemin jusqu'au micro. Oui. Thierry Paré pour les infos.
Grève générale aujourd'hui en Guyane. Les 37 syndicats réunis au sein de l'UGT pour Union des travailleurs guyanais ont voté à l'unanimité la grève générale à compter de ce lundi. Le taux de chômage en Guyane, il atteint 22%. Plus d'une centaine de pays lancent aujourd'hui à l'ONU des négociations inédites sur un traité interdisant les armes nucléaires, conformément à une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était le 23 décembre dernier. D'un bout à l'autre de la Russie, des milliers de personnes ont marché contre la corruption hier, suivant le mot d'ordre lancé par l'opposant Alexei Navalny, candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain. Ce dernier a été arrêté aux côtés de plusieurs centaines d'autres manifestants. La CDU, l'Union chrétienne démocrate de la chancelière allemande Angela Merkel, est arrivée largement en tête des élections régionales organisées hier dans la Sarre. Selon les premières estimations, les conservateurs dépasseraient la barre des 40%, devançant de plus de 10 points le SPD, le parti social-démocrate emmené par Martin Schulz, qui atteindrait lui tout juste les 30%. Une terrible tragédie, ainsi que l'armée américaine qualifie la mort de nombreux civils dans des frappes aériennes à Mossoul ces derniers jours. Les frappes de la coalition contre l'État islamique font de plus en plus de victimes civiles, selon de nombreux témoignages, et qui ne sont plus donc démentis par les militaires américains. Il ne fait pas bon être militant écologiste au Brésil. Ancien cadre du mouvement des Sans-Terre, Waldomiro Costa Pereira a été assassiné, comme dans un film, gravement blessé suite à une première tentative d'homicide. L'agriculteur activiste en guerre contre la voracité des grands propriétaires a été exécuté à bout portant par balle alors qu'il était entre la vie et la mort en soins intensifs. Waldomiro Costa Pereira est le dernier d'une longue liste de personnalités écologistes abattues ces dernières années, près de 270 depuis 2010. Un stock de palettes a pris feu cette nuit dans une zone industrielle de Bondy en Seine-Saint-Denis, provoquant un incendie spectaculaire et des explosions. Il n'y a pas de blessés. Sébastien Vettel sur Ferrari remporte le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, en Australie, hier, devant Lewis Hamilton. Et puis Adidas et Marseille, c'est fini. À compter de la saison prochaine, l'équipementier de l'OM sera allemand, sera l'allemand Puma. Le montant du contrat, il n'a pas été révélé. On évoque quand même 15 millions par saison. On est très loin des records en la matière. 90 millions d'euros entre Adidas et Manchester United.
Toutes ces nouvelles, là, Adidas, ils vont réussir à s'en remettre.
Bah, ils sont partenaires de Manchester, je pense que ça va le faire.
Bon, ça fait plaisir. Merci Thierry. Tito, vous vous sentez de faire une météo ou pas?
Oui.
Avec grand plaisir. Merci, bien sûr.
Nuages sur la France, soleil, quelle chance sur tout le pays. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais vous dire les températures. Agen, entre 9 et 6. Agen, Angers, Amiens, entre 6 et 17. Avignon, entre 5 et 18. Bordeaux, entre 7 et 19. Brest, entre 9 et 19. Laval, entre 8 et 18. Marseille, entre 6 et 17. Montpellier, entre 6 et 17. Nantes, entre 9 et 19. Poitiers, entre 8 et 19. Paris, entre 8 et 19. Saintes, entre 8 et 19. Tours, entre 8 et 19. Et tout ça, c'est vrai!
C'est dans cette chanson d'Aznavour qu'un moment est dit devant l'église une roulotte peinte en verte. Jacques, souvent dans la rue.
On est place Jean Jaurès. Place Jean Jaurès, il y a des petites échappes. On se croit
à Toulouse. Hein.
Toulouse. À Toulouse toujours.
Jean Jaurès, l'Amérique du Sud, écoute.
Ouais, on a une petite place, on a l'impression que c'est des échoppes comme il y a en Amérique du Sud, où ils ont leur petite boutique, ils vendent de tout. Et là, étaient assis dessus Maxence et Anaïs. Anaïs va passer son diplôme en quelques instants de coiffeuse.
Oui.
Et elle est accompagnée de son frère. Et vous allez lui couper les cheveux, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Anaïs, bonjour.
Bonjour. Je vais passer à 13h45.
Ça va bien se passer, Anaïs, moi, je crois. Dites-moi, Anaïs, est-ce que votre frère a fait exprès de se faire pousser les cheveux très longs jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez travailler?
Oui. Il les a plus longs que moi.
Donc, ça va être un soulagement pour les deux, parce que vous, vous allez réussir et lui va avoir la coiffure qu'il aimait au départ.
C'est ça.
Est-ce que vous avez... C'est un freestyle, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou il y a des figures imposées?
Il y a des figures imposées.
Comment ça s'appelle, par exemple, des figures?
Alors, je vais lui faire un fondu de nuque, et après, je vais lui faire une... Au-dessus, je vais lui faire une coupe en plein.
Alors, attendez, un fondu de nuque, c'est joli, ça.
Maxence, est-ce que vous êtes d'accord pour le fondu de nuque?
Pas de souci. De toute façon, c'est son examen, et elle doit effectuer des figures, et moi, je les accepte.
Ouais, mais enfin, c'est votre nuque. C'est son examen, c'est votre nuque, il faut pas... Et l'autre figure s'appelle comment?
C'est le fond du nuque, et après, il y a la coupe en plein, et c'est en fait, on laisse plus long sur le dessus, en fait.
Alors, c'est toute la différence entre le patinage artistique, où là, il y a plutôt du double axel. Ce sont des figures très différentes en coiffure. Est-ce que vous avez peur, comme c'est votre frère, que votre ciseau tremble un peu, lui couper un bout de lobe de l'oreille, ou ça n'arrive pas, ça?
Non, je me coupe plus souvent que je coupe mes clients.
Vous auto-coupez les cheveux?
Non, quand je coupe, c'est les doigts, voilà, c'est ça.
Quels sont vos modèles dans le monde des célébrités, vos modèles capillaires, Anaïs?
Alors là...
Qui est bien coiffé dans les gens que vous voyez à la télévision ou à la radio ou dans le journal ou dans la rue? Il n'y a pas des coiffures qui vous touchent particulièrement?
Si, parce que moi j'ai un style assez spécial et j'aime bien tout ce qui est couleurs assez flash,
ah ouais.
Et coiffures assez extravagantes en fait.
Ah oui, d'accord, du mauve, du bleu, du turquoise. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui font exprès d'être chauves, que la calvitie c'est une façon de vous empêcher de travailler?
Non.
Vous en voulez
c'est
pas?
C'est une maladie.
ça s'appelle je ne sais plus, ça y est. Quand on perd ses cheveux, l'alopécie quand on perd ses cheveux. Et dites, donc vous n'en voulez pas aux gens chauves du tout, Anaïs?
Non.
Très bien, bah écoutez, je vous trouve très généreuse. Vous avez un petit peu le trac comme quand on passe son bac ou quand on va aller comme à la fin?
Ouais, beaucoup même.
Qu'est-ce qui risque d'arriver si...
Le problème, c'est que comme les profs, ils sont assez exigeants, il y a beaucoup de stress. Donc en plus, ils sont toujours derrière nous. Malgré qu'ils nous encouragent, il y a toujours l'angoisse d'échouer parce que malheureusement, en coiffure, on est les seuls où on ne peut pas se rattraper. Oui, c'est vrai.
Vous ne pouvez pas recoller les cheveux après. Attendez, tiens, je te les remets. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un frère comme vous, d'avoir Maxence, Anaïs, comment ils font? Ils prennent des gens dans la rue, les assomment, ils les amènent de force là-bas. Comment ils font, les autres?
Je crois qu'ils font ça, ouais, qu'ils les assomment et qu'ils les amènent de force.
Bon, écoutez, on vous embrasse très fort, puis bonne chance pour le concours.
Ouais, bravo Maxence. Merci.
Est-ce qu'après, il fait l'appareil dans son métier à lui, Maxence? Est-ce qu'il se sert de sa sœur? Il est dans quoi, Maxence?
Pour le moment, je suis en seconde générale et je pense partir dans la police scientifique. Et donc, je ne pense pas disséquer ma sœur plus tard. Donc, vaut mieux éviter.
Merci beaucoup. Très belle journée à vous.
Couple charmant. Salut.
Salut. Alors, hier même avant-hier, mon camarade Philippe Sprang m'appelle et me dit « Il y a un documentaire formidable qui passe mardi soir sur France 2 à 23h. Il faut absolument qu'on en dise deux mots, c'est rare qu'il y ait cette qualité-là. » Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'il a de si épatant, ce documentaire « Les enfants du terril » ?
Eh bien, il nous présente sans misérabilisme, avec beaucoup de pudeur, une famille à la dérive dans un quartier d'Ekati de la banlieue lançoise. Et une famille avec très peu de ressources, mais qui essaie de s'en sortir tant bien que mal, avec surtout l'histoire et le personnage principal, c'est Loïc, un jeune homme d'une quinzaine d'années qui se fait rejeter qui doit faire face à un rejet scolaire, au fait qu'il ait déclaré son homosexualité. Et donc, tout ça est mélangé avec des difficultés financières, malgré tout. Et c'est ça qui est. Ils font face, ils se débrouillent, ils se trouvent des solutions. Et lui est plein de vigueur, plein de malgré les trous, malgré le mal-être un peu adolescent, eh ben il trouve quand même une espèce d'énergie incroyable. Et il y a beaucoup de pudeur, une capacité à filmer sans moralisation, c'est vraiment sensationnel.
Donc on est dans la banlieue de Lens, je crois que c'est un quartier qui s'effondre complètement. Lui a tous les problèmes qu'on peut avoir, une sexualité qui ne doit pas être facile à assumer, dans un milieu qui ne doit pas l'accepter beaucoup. C'est le portrait d'un mec plutôt heureux quand même.
Oui, enfin qui... Heureux, je dirais pas, mais qui a ses soucis d'adolescent, mais on sent qu'il a la force en lui pour s'en sortir. Et c'est assez stupéfiant parce que c'est ça qu'il dit. Donc, on voit il se plaint pas, il cabotine pas devant la télé, il raconte sa vérité. Et en plus, il y a extrêmement beaucoup de pudeur.
Il est lumineux, Loïc. Il est lumineux malgré les difficultés. Il dit « j'ai du mal avec le monde en ce moment ». C'est-à-dire qu'il verbalise aussi ses difficultés d'adolescent. Il a beaucoup de problèmes avec le collège, on comprend pourquoi. On se rend compte aussi que le collège, il est filmé avec sans doute la conseillère d'orientation à un moment donné. Et on se rend compte qu'il n'est pas forcément soutenu par l'institution non plus. Il n'est pas accompagné, pas compris. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et il est en résistance, évidemment. Et puis, il y a le petit frère aussi, il y a Théo, qui est aussi une source qui est lumineux aussi dans ce film-là.
On a au téléphone le réalisateur Frédéric Brunkel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nova, vous allez bien?
Et on va bien. Alors dis donc, ceux qui l'ont vu ont l'air déjà bien contents quand même de votre film. C'est toujours très mystérieux les documentaires, les reportages. Comment est-ce qu'on arrive à suivre des gens sans que la caméra change l'atmosphère et les accompagne et sans que la caméra soit au centre du procédé? Est-ce que vous avez...
Ouais, la caméra, la caméra, faut qu'elle devienne invisible, faut qu'elle disparaisse. Et là, j'ai filmé pendant 7 mois Loïc, Théo et leur maman. Et pour arriver à ce que la caméra disparaisse complètement, il faut que les gens comprennent bien ce qu'on fait. Il faut qu'ils adhèrent aux propos et qu'ils soient d'accord pour jouer leur propre rôle, comme des acteurs qui joueraient un rôle. Mais là, c'est du cinéma vérité, c'est du cinéma du réel. Ils jouent leur propre rôle, ils jouent eux-mêmes. Et donc, ils acceptent ça. Ils savent le sens des scènes que je tourne chez eux, avec eux. Et c'est comme ça que la caméra disparaît complètement. Et moi, ce qui m'a épaté chez Loïc, Théo, c'est que ces petits gamins qui habitent dans un quartier de la ville de Lens, qui était tout à fait délabré quand on a tourné, qui est resté délabré pendant 10 d'années, des maisons abîmées, les toits ouverts, des baraques qui crament, il y avait un côté un peu détroit là-bas. Ça s'est amélioré parce que ils ont enfin entrepris un grand ravalement et une grande remise à niveau du quartier là en ce moment. Mais ce qui m'a épaté, c'est que dans ce décor-là, les deux enfants étaient capables de poésie. Si je peux vous raconter une histoire, la première fois que j'y suis allé avec la caméra, on se baladait dans le quartier, ils me faisaient visiter leur coin. Et il y avait une grosse benne à ordures, une grosse benne en ferraille. Et les deux enfants grimpent dedans, sautent dedans et attrapent un pouf plein de billes de polystyrène, commencent à jouer avec et jeter en l'air les billes de polystyrène. Ils disent « il neige à Chicago, il neige à Chicago ». Pour eux, ils avaient l'impression de vivre à Chicago et ces billes de polystyrène, c'était la neige. Et ils sont mis à chanter en anglais « Jingle Bell ». Et je me suis dit « waouh, ils sont capables de poésie, il faut vraiment faire ce film sur eux ».
Ça reste un terrain de jeu, c'est ça qui est étonnant. Vous avez capté deux enfants, deux ados ou pré-ados dans un moment où effectivement il y a une grande conscience des difficultés. Il le raconte hein, devant votre caméra, mais ça peut être aussi des moments de jeu et de poésie.
Oui, absolument. Ouais, c'est des gros moments de doute, c'est des moments de construction de soi-même pour Loïc, qui effectivement est en échec scolaire et on comprend dans le film pourquoi à un moment, parce que quand il était en quatrième, ses camarades... En cinquième, même ses camarades de classe avaient détecté avant lui-même, avant que lui-même en ait confiance, son homosexualité et le harcelait. Et lui, à un moment dans le film, il se met à l'assumer, il se met à l'accepter, à le revendiquer. Et donc il y a de la lutte, mais il y a aussi il y a du courage. Et puis il y a une espèce de poésie de la vie parce qu'il y a malgré tout la croyance la plus forte que tout qu'on va s'en sortir, quoi, qu'on va y arriver parce qu'on le vaut bien, parce qu'on a de l'énergie.
Et le pivot, Frédéric, de cette famille, c'est la mère, c'est Patricia, qui fait tout, qui donne tout pour ses enfants. Le peu qu'elle a, c'est 800-900 euros par mois. Elle dit, on ne se prive pas, mais elle leur permet de garder leur possibilité de rêver. C'est-à-dire qu'elle leur achète les petites baskets à la mode, quand même, elle essaie de faire un effort pour qu'ils soient comme les autres et garder leur possibilité de rêver. Et lui, le gamin, Loïc, de pouvoir monter sur le terril, de regarder à l'horizon et de pouvoir se projeter. C'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça la maman, Patricia, donc, ouais, elle vit avec 800 euros par mois. Et elle dit non, on ne se prive pas. J'arrive à leur offrir ce qu'ils veulent. Alors, voilà, c'est très modeste et tout. Mais elle est capable de leur faire de les élever comme une formidable mère qui est capable de leur faire des cadeaux, qui les éduque bien, qui les entoure et qui leur permet malgré tout de s'intégrer, enfin d'arriver à rentrer dans la vie, même si, et c'est ce que le film explique et c'est ce que le film essaye de faire comprendre, même si quand on est un enfant pauvre, le plus difficile c'est de s'inventer un avenir, c'est de se dire comment, qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais devenir après ? Parce que Patricia ne travaille pas, et ça fait des générations qu'on ne travaille plus dans la famille. Ce n'est pas par choix, hein, mais c'est comment, du coup, le film pose la question de savoir comment ils peuvent arriver à s'imaginer un avenir. Et c'est hyper compliqué de s'imaginer un avenir quand on a vécu 10 ans, 15 ans dans un quartier complètement déglingué. C'est très compliqué.
Merci.
Et Patricia, elle fait ce qu'elle peut et elle est formidable.
C'est demain soir, Frédéric Brunkel, c'est demain soir à France 2 à 23h05, Les Enfants du Terril. Vous aimeriez qu'on sorte du film dans quel état, dans quelle humeur, à quel type de sensation ?
Qu'on se dise, tiens, c'est vrai qu'ils existent. Tiens, et puis, ils sont plus de 3 millions en France. Et on est au moment des élections présidentielles. Et qu'est-ce qu'on fait ?
Merci, Frédéric Brunkel.
Merci beaucoup. Salut. Au revoir.
Alors, j'avais reçu une petite lettre. Ça a commencé comme ça. Bonjour Monsieur Baird et Radio Nova. J'aimerais vous présenter mon recueil de poésie et participer à votre émission Un enfant, un poème. Depuis ma rentrée en CM1 ou CM2 ?
CM2.
CM2, c'est moi, tu vois, j'arrive pas à lire. J'écris des poèmes. En voici un qui vous montre ma passion pour la poésie. Coucou, c'est Daphné Cohu. Bonjour Daphné.
Bonjour.
Alors c'est rare, tu sais, d'habitude les enfants ils viennent plutôt dire des poèmes des autres. Et toi c'est cette année que tu as écrit des poésies ou des poèmes.
Oui.
Et tu sais comment, qu'est-ce qui t'a fait commencer ?
J'écrivais des poèmes et en fait c'est mon prof, il m'a proposé de faire un recueil de poésie.
Mais oui, alors c'est très joli, là il y a un livre qui s'appelle Poèmes d'un enfant, c'est un très joli livre que tu m'as donné. Il y a une photo, il y a même une photo de toi, dis donc. Tu vois, la grosse tête, il ne va pas y avoir des jalousies des autres enfants. Il dit oui, il y a sa photo, c'est pas juste. Non, ils connaissent ton livre, les autres enfants de ta classe ou pas ?
Quelques-uns, oui.
Et alors, ils aiment bien ou ça se passe bien ?
Oui.
Et comment tu écris tes poésies ? Alors, tu écris à une heure précise de la journée ?
Non.
Comme ça te vient ?
Oui.
Et t'as l'impression, c'est quoi ? C'est quand il y a un sujet qui te plaît ou c'est...
Un sujet qui me plaît.
Par exemple, c'est une chose dans la journée, ça te donne une idée ?
Oui.
Et le dernier, c'est quoi ? C'est lequel ? Là, il y a la forêt transformée, il y a un poème sur la tendresse... Il y a le vol de l'oiseau. Tu te rappelles le dernier que tu as écrit, c'était quand ?
Je ne sais plus.
Eh bien, nous allons prendre tout le temps, on va retrouver. Et, est-ce que c'est plutôt quand tu as le temps, le week-end, l'été, ou ça peut être après l'école, la journée ?
Après l'école, même pendant.
Pendant l'école ? Ça ne le dit pas trop, ça. C'est une maîtresse que tu as ou pas ?
Un maître.
Un maître, et pendant qu'il parle, parfois, tu écris un poème ?
Non.
Mais tu m'as dit que c'est pendant.
Oui, mais quand j'ai fini mon travail.
Ah, tu restes là-bas, et tu écris ton poème là-bas. Donc, il te soutient bien, ton maître ?
Oui.
Et celui que tu vas nous dire aujourd'hui s'appelle comment, ma chère Daphné ?
Garde espoir.
Garde espoir, alors on écoute.
Garde espoir. Quand tu vas baisser les bras, quand tu n'y arrives pas, quand tu as trop peur du noir, quand tu commences à perdre espoir, quand tu perds la raison, quand tu ne vois plus l'horizon, quand c'est vraiment trop dur, que devant il y a un mur, ne perds jamais espoir, et tu verras dans le noir.
Super, magnifique. Ah, dis donc, il est très très beau. Est-ce que ça te fait du bien, par exemple, ce poème-là ?
Ben oui.
Il y a des moments dans la vie où tu as eu peur de perdre espoir ?
Non.
Non, toi ça va ?
Oui.
C'est quoi les très bons moments de la vie ? Ce que tu préfères, c'est quoi, à part écrire des poèmes ?
La musique.
Tu joues ou tu écoutes de la musique ?
Je joue de la musique et j'en écoute.
Tu joues de quoi ?
Du piano.
Mais c'est toi qu'on entend, là. Ah oui, effectivement, c'est remarquable.
Tous les talents.
Tous les talents. Et tu écoutes quoi ?
Bah, ça dépend.
Ça va de Mozart à Rihanna ? Tous les styles ?
Bah, j'aime pas trop le rap.
D'accord. Et est-ce que tu danses aussi ?
Non.
Est-ce que tu chantes ?
Pas spécialement.
Est-ce que tu fais la cuisine ?
Non.
Est-ce que tu grimpes aux arbres ?
Non plus.
Est-ce que tu te disputes avec tes petites sœurs qui sont là derrière ?
Des fois.
Voilà, et ben voilà, c'est ça la vérité. Oui. Bon, et les filles, les sœurs, vous allez écrire des poésies, vous aussi, ou pas ? Il y a les sœurs qui sont derrière. Non ? Et vous écoutez les poésies de votre sœur ? Oui, alors elles disent oui. Et vous pouvez être très fier de votre sœur. Bravo, Daphné, ils sont très très beaux, tes poèmes, et surtout celui que tu nous as dit aujourd'hui. On t'embrasse très fort.
Merci.
Salut.
7h-9h, plus près de toi.
Ça va ? Plus près de toi.
Édouard Baird.
Et tu as peint pour moi.
La voix de Fanny Ardant, tout dans le souffle comme ça, Atman, avec Alex Baupin, une reprise de Delpech.
Magnifique.
Pas vous qui feriez ça.
Non, mais j'adore cette chanson, ils l'ont bien reprise. Non,
mais c'est pas vous qui le feriez.
Ah non, ça serait pas moi.
Eh oui.
C'est pas le genre de la maison.
C'est pas vous ça.
Non, c'est pas moi.
C'est ça que je dis.
C'est plus ça que tu dis.
Oui, mais c'est parce que c'est, ça c'est Pourquoi? Bien, mais vous, vous ne sauriez pas le faire, ça.
Bah non.
C'est ça que je dis, vous voyez.
Vous le dites alors.
Oui, vous ne le faites pas, ça.
Et non, je ne le fais pas.
C'est dommage. Ah bon. Le journal de Thierry Paresse. 8h01.
Plus d'une centaine.
Voilà, vous voyez, le journal, c'est pas vous.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de moi. Oui.
Plus d'une centaine de pays lancent aujourd'hui à l'ONU des négociations inédites sur un traité interdisant les armes nucléaires, conformément à une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 23 décembre dernier. Alors, la plupart des puissances nucléaires, déclarées ou non, avaient soit voté contre ces négociations, les États-Unis, la France, Israël, le Pakistan, même le Japon d'ailleurs, seul pays à avoir subi en 1945 des attaques atomiques, a voté contre, ou soit s'était abstenu, la Chine, l'Inde ou encore le Pakistan, que j'ai cité dans ce qu'avait dit. Oui. Non, en fait,
j'ai l'impression que vous faites votre révolution sexuelle, Thierry, ce matin.
Il a dit deux fois Pakistan, il s'est trompé.
C'est
faute.
Vrai. Ouais, c'était, je voulais dire, le Royaume-Uni et la Russie, en fait, voilà, qu'on votait contre. C'est important, effectivement.
C'est vrai que si on veut dire quelque chose, autant le dire. Hein.
Ouais, autant le dire.
Voilà, c'est plus ça que vous dites.
C'est plus ça que je dis.
On va se faire engueuler, honnêtement.
Il faut savoir qu'aucune avancée n'a été enregistrée ces dernières années en matière de désarmement nucléaire, malgré les engagements pris par les grandes puissances dans le cadre du traité de la non-prolifération. Les barrages ont été levés en Guyane hier et les commerces ont partiellement rouvert, mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un essoufflement du mouvement, bien au contraire, il s'agissait simplement de permettre aux Guyanais de se ravitailler avec, avant la grève générale de ce lundi. Une mission interministérielle a tenté de nouer le contact ce week-end avec les représentants du mouvement sans succès. Le taux de chômage a atteint les 22% en Guyane. Les revendications, elles sont multiples, elles concernent la santé, l'éducation, le logement, la sécurité également. C'est bien fait pour toi, Atmen. Une terrible tragédie.
Pardon, parce que Atmen a reçu, j'ai lancé une boulette de papier sur Atmen. Oui. Donc il a pris... On pourrait filmer.
Vous êtes battu.
Attendez, on ne sait jamais. Il suffit qu'après il annonce un drame, on aura honte d'avoir fait des blagues, justement.
C'est vrai.
Alors arrêtez.
Une terrible tragédie. D'ailleurs, tiens, allons-y. C'est ainsi que l'armée américaine qualifie la mort de nombreux civils dans des frappes aériennes à Mossoul ces derniers jours. Les frappes de la coalition contre l'État islamique font de plus en plus de victimes civiles. D'un bout à l'autre de la Russie, des milliers de personnes ont marché contre la corruption hier, suivant le mot d'ordre lancé par l'opposant Alexei Navalny, candidat à l'élection présidentielle en 2018. Ce dernier a été arrêté aux côtés de plusieurs centaines d'autres manifestants. Jamais 203, le conservateur Boyko Borisov a remporté les élections législatives bulgares hier.
Ouais, il s'apprête. On a gagné. Attendez, c'est quoi votre imitation du bulgare? Ça, vous pensez que vous avez le droit Non, c'est pas du bulgare, ça.
Si, c'est quoi? C'est du bulgare.
Il faut savoir que tout le monde a un petit peu gagné dans cette législative bulgare, parce que certes, le Premier ministre sortant donc, va être réélu pour la troisième fois, son parti du moins, mais le Parti Socialiste qui arrive deuxième double son score de 2014. Il y avait également des élections en Allemagne, des élections régionales. Dans la Sarre, Angela Merkel peut se frotter les mains, puisque la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate, est arrivée largement en tête. Les conservateurs dépasseraient la barre des 40%, devançant de plus de 10 points le SPD, le Parti Social Démocrate, emmené par Martin Schulz.
Est-ce que dans la
lui...
Sarre,
tout juste à 30%.
Ce n'est pas comme en Bavière, le CDU ne s'appelle pas le CSU.
Non.
Très bien.
Il n'y a toujours aucune revendication après l'enlèvement d'un ressortissant français au Tchad, non loin de la frontière avec le Soudan. C'était jeudi dernier, un ressortissant français dont l'identité n'a pas été révélée. Un stock de palettes a pris feu cette nuit dans une zone industrielle de Bondy, en Seine-Saint-Denis. L'incendie qu'on a suivi a été spectaculaire. Apparemment, il y a eu des explosions, mais il n'y a pas de blessés. Et puis la 23e édition du SIDAction, opération médiatique d'appel aux dons pour la prévention et la recherche contre le sida, a permis de la collecte d'un peu plus de 4 millions d'euros. C'est en baisse légère par rapport à l'an dernier.
Alors,
il n'y a pas eu de sport.
Dis donc.
Oui.
C'est pas à toi. Pourquoi vous n'avez pas fait le journal, Christophe et Atmen?
Nous, le journal.
On va le faire.
Pourquoi c'est
pas
vous? On va le faire si tu veux, mais attends, non. On a des super infos.
Pourquoi vous pourriez de temps en temps, peut-être que Thierry Paré a des choses, il a des enfants emmenés à l'école, des choux à arroser.
Il revient du ski, ça va, il peut faire.
Non, mais nous, on peut le faire. Si tu veux, on est prêt à rendre service.
Je pense que chacun, on pourrait échanger nos métiers de temps en temps.
Mais ils font pas d'efforts, ils me le proposent jamais. Jamais ils me proposent. Jamais.
De faire quoi?
De changer, de faire le journal.
Mais de faire quoi, eux, à leur place?
De présenter le journal, ils me proposent jamais.
Vous feriez quoi?
Je sais pas, je peux faire.
Je saurais pas.
Ce qu'ils savent faire, eux.
Les blagues d'Ahmed, je peux les faire.
Bah
les
oui,
oui, ça c'est pas,
ah, ça, oui,
ça, c'est pas un souci.
Alors, est-ce qu'on a Jacques Souvent là? Génier, oui, Jacques Souvent est à Toulouse, dans les rues.
Encore.
Toi, tu préfères marcher tout seul comme équipe?
Waouh, ouais. Bah ouais, c'est mieux de marcher tout seul.
Parce que?
Que des putes. Non, en vrai, que des gens pas bien. Infréquentables.
Ça veut dire quoi? T'as moins de problèmes si t'es tout seul qu'en bande?
Déjà, tu peux pas te t'auto-balancer. Je peux pas t'auto parler dessus. Et je sais pas comment dire. Je peux pas. T'es bien. Tout seul, t'es bien. Après, moi, j'ai un chip, je reste avec un chip. Et en gros, mes collègues, je les compte sur mes doigts. Je reste avec un chip, c'est mon associé. Je garde mes arrières et je garde les siennes. C'est vrai, hein,
c'est lui qui t'attend, là?
Non, ouais, il a fait la pue. Enfin, il a fait le bâtard, là. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais il m'a mis un plan.
Parce que quoi, il est en retard?
Ouais, il est en retard. Ça va faire 20 minutes, je l'attends, là. Il est toujours pas là.
Les plans pour la journée, c'est quoi?
Là c'est, là, c'est dodo. Après, on voit ce qu'on fait.
Être seul.
Quoi,
être libre. Les ouais, autres, être... on les attend ouais. toujours, les autres.
Non, moi, j'attends personne, moi.
J'attends personne.
Ouais.
Confiance en vous-même?
Confiance en moi-même.
Vous vous aidez, vous vous aimez bien vous-même?
Moi, je m'aime pas, enfin, juste, j'ai confiance en moi.
Vous êtes...
ma mère.
Vous êtes votre pote quand même? Vous êtes ami avec vous?
Moi, ouais, je suis schizophrène aussi. Je m'auto-check et tout. Je me fais des auto-saluts.
Vous êtes plusieurs.
Voilà, ça soirée mousse dans ma tête. En ce moment même.
Eh bien, je vous laisse avec notre ami Jack avant d'aller vous recoucher puis de vous relever à nouveau. Les autres. Peut-on compter sur les autres quand ils sont à l'extérieur de nous-mêmes? Il y a les autres en nous, puis il y a les autres dehors qui sont pas mal aussi. Je vais allumer une petite clope quand même, envoyer quelque chose.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Il y a des métiers où c'est facile d'imaginer à quelle heure les gens sont debout, si l'embauche est à 7h, 8h, 9h. Ou, je vois dans les agences, ensuite pub, c'est plutôt à 10h. Ensuite, il y a des métiers de la nuit, il y a des métiers de la restauration. Mais alors, Laetitia Casta, je n'ai aucune idée à quelle heure elle se réveille. On va voir.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Mannequin, comédienne, réalisatrice, auteur, maman, mille fois femme, égérie de notre beau pays, Laetitia Casta, j'en frémis, je me trompe de consonne sitôt ce matin, est aussi une femme chez elle le matin, sans doute dans sa chambre. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, il est 8h11.
Oui.
J'imagine pas du tout dans quelle pièce de l'appartement vous pourriez être à cette heure-là.
Mais là, je suis assise sur un radiateur.
Oui.
Pas dans ma chambre. Je suis dans une toute petite pièce avec une tasse de café.
Alors, c'est votre indépendance d'esprit? Vous vous asseyez sur le radiateur, vous vous réchauffez les mains au fauteuil?
Les mains, oui.
Vous faites les choses à l'envers. Est-ce que ce radiateur, c'est une façon de vous réchauffer face à l'extérieur, ou c'est simplement ce qu'il y avait de plus près pour s'asseoir?
Non, c'est pour me réchauffer.
D'accord, écoutez, c'est un moment extrêmement... Je suis ravi de le partager avec vous. Est-ce que vous allez directement du lit au radiateur le matin, même l'été?
Non, c'est particulier ce matin.
Ce matin, oui, parce que vous avez cru voir arriver le printemps, puis il y a eu une petite déception ce matin, effectivement.
Oui, quoique je vois le ciel, mais c'est bleu.
Et est-ce que quand vous laissez tomber votre lit, vous l'abandonnez avec un peu de regret, votre lit? C'est votre ami, votre lit?
Oui, j'adore dormir le matin. J'adore ça.
Est-ce que vous refaites votre lit une fois l'avoir
quitté? Ah non, pas du tout, non. J'aime pas du tout faire ça. J'aime bien d'ailleurs arriver et dans le lit le soir et que le lit soit défait.
Le lit soit défait parce que vous ne l'avez pas refait ou parce que vous le prêtez la journée à d'autres gens? Je
crois qu'il y a du monde ici, non?
Ben oui, c'est ça. Il y a les maris, les femmes, les enfants, on imagine tout ça, tout un monde qui se balade, des gens qu'on aide, des gens qu'on... Parlez-moi de ce lit, Laetitia Casta. Est-ce qu'on est sur vous avez tenté un 2 mètres de largeur? On est sur un 1,80, 1,60?
On est sur un super king size.
Oui, le lit du roi. Super king size, en chiffres, ça donne quoi? 2 mètres, vous croyez?
Oui.
Donc on peut
C'est un très grand lit. C'est un lit où on peut mettre tout le monde. Plein d'enfants, les chiens, tout quoi.
Ah oui, c'est vraiment un lit très accueillant. C'est comme un tipi, c'est comme une petite maison.
Il est très haut aussi.
Il est très haut, donc
oui,
il faut...
Oui, très 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 haut, il faut prendre une échelle pour monter dessus. C'est très agréable.
Une fois qu'on est là-haut, donc on est vraiment comme dans une cabane, dans un petit monde à part, dans votre lit.
Voilà, sur un nuage.
Et est-ce qu'il est suffisamment grand pour quasiment ne pas connaître forcément la personne avec qui on le partage et la découvrir au bout de plusieurs mois?
Non, ça, c'est pas encore produit.
Non, ça, c'est peut-être, il faudrait peut-être, oui, il faudrait habiter un champ, peut-être un champ de blé. Laetitia, est-ce que vous êtes plutôt couette, vous êtes drap, vous êtes couverture, vous êtes quoi?
Plutôt couette.
On est sur des oreillers très doux, très moelleux, très tendres, ou au contraire des...
Et il y en a beaucoup.
Beaucoup d'oreillers.
Voilà, il y a beaucoup d'oreillers. Mais la couette, parfois, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a trop chaud.
Oui. Il y a des couettes d'été maintenant. Alors on peut
c'est
vider
très,
sa
très
couette.
C'est très important d'essayer de sortir une jambe de la couette.
Laquelle?
La gauche.
Donc on a donc la jambe droite qui est bien au chaud, qui est sous voilà. couette, qui est couettée, et la jambe gauche qui vit sa vie, qui est là, qui est à l'air libre, qui...
Voilà, qui respire.
Qui respire. Est-ce que parfois vous alternez, vous changez de côté du lit, vous sortez la jambe droite, Laetitia? C'est un peu personnel comme question.
Non, ça m'arrive, ça m'arrive. Dans un mouvement comme ça, rapide et spontané, ça peut arriver.
Ça peut arriver, vous n'avez peur de rien, chère Laetitia. Est-ce que parfois vous videz votre protège-couette de votre couette afin d'avoir plus qu'un drap? Ça s'appellerait l'été.
Oui, mais je mets tout simplement un drap, en fait.
Voilà. Et alors, on a parlé de beaucoup d'oreillers, oreillers coussins. Donc, il y a des oreillers pour dormir, des oreillers pour lire. Est-ce que vous regardez aussi la télévision dans votre lit?
Oui, en fait, plutôt avec l'ordinateur, des films.
On est là.
Alors,
on
parfois, est... je pars, très sûre de moi en me disant que je regardais un film. Et puis, je m'arrête assez rapidement, je m'endors. Donc, je vois parfois des débuts de films.
Mais c'est bien, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà. Très souvent, on a vite compris de quoi il s'agissait.
C'est-à-dire
dans les films, au bout d'une minute, on se dit c'est
ah
bon,
oui,
je l'ai
oui,
vu.
Non,
quoi.
Ouais. Là, c'est quand même des films, le dernier vu en date, c'est un film de Woody Allen. Annie Hall, mais là, je ne pouvais pas m'arrêter.
Ah non, c'est magnifique, Annie Hall. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ce lit, donc c'est à la fois salon de films, c'est un endroit où on peut. Est-ce que vous y prenez des repas aussi? Vous y recevez? C'est un. Vous recevez vos amis au lit,
bon,
comme Louis XIV?
Exceptionnellement, il peut y avoir un petit-déj. Mais ce que je préfère, en fait, au fond, ce n'est pas tellement dans le lit que je reçois, c'est quand je suis dans la baignoire. J'adore être dans la baignoire et qu'il y ait une chaise et discuter avec les amis, avec n'importe quelle personne qui passe par là. J'adore parler.
Merci, on se sent reçu dans votre salle de bain, Laetitia. Quand vous êtes dans votre baignoire, est-ce que tout à coup vous recouvrez votre corps de mousse? Est-ce que vous troublez l'eau avec des produits? Ou vous acceptez la transparence de l'eau qui nous donne accès aux merveilles de la nature, au soleil de votre corps sous l'eau?
Non, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que la baignoire est très profonde.
Oui.
Donc, on ne voit dépasser que ma tête.
Ah,
donc, il n'y a pas besoin de mettre de la mousse ou de l'eau bleue ou des trucs comme ça.
Vous voulez dire que vous prenez des bains verticaux?
Oui.
Vous êtes debout dans votre baignoire.
Oui, c'est ça.
Mais vous recevez dans votre baignoire des amis? On peut prendre des bains avec vous?
Non, à côté. Je reçois à côté.
Donc la baignoire est un lieu plutôt de conversation. Est-ce que pour l'hygiène, il y a la douche alors?
Non, mais disons qu'il y a une chaise à côté.
D'accord.
Pourquoi la douche? Enfin, la baignoire, je me lave aussi.
D'accord. Dans quelle tenue vous lavez-vous, Laetitia?
Avec une salopette.
Ah oui. Je le craignais, je le sentais venir, c'est ma petite déception de la journée. Vous savez, vous nous avez emmenés très loin, vous nous avez fait voyager, vous nous avez ouvert beaucoup de portes de chez vous, et au dernier moment, vous avez refermé un peu violemment cette porte avec cette histoire de salopette. Vous avez refusé d'érotiser la matinée jusqu'au bout. À un moment, vous nous avez ramenés au réel.
Non, mais c'est ça l'érotisme. On ne sait pas ce qui se passe.
Oui. Vous préférez nous laisser deviner, imaginer, mais vous, oui.
Exactement.
Je comprends, mais vous
et
aimez...
Et vous, Edouard, vous faites quoi? Le matin,
moi, je prends une douche. Je prends une douche sans réfléchir qui me permet de sortir du marasme, oui.
D'accord.
J'essaie de la prendre glacée parce que j'ai lu qu'on devenait un fier combattant et puis très vite, j'accepte qui je suis et je la prends très chaude.
D'accord.
Mais écoutez, on échangera nos salles de bain et nos façons, nos rapports à l'eau.
Avec plaisir.
Vous allez faire quoi, là, maintenant?
Si je me levais à 7h et j'ai pris le petit-déj avec tous les enfants, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je vais faire quoi? Je me demande si je ne vais pas me remettre dans le lit.
Ah, ça serait bien, mais on va vous y accompagner. Vous y dites qu'il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on est comme dans certains villages comme ça où on ne sait pas très bien qui sont les enfants qui sont à notre table?
parfois ça arrive. Et en plus, il se transforme.
Ah bon, ah, c'est, oui. Ça s'appelle
c'est
la puberté.
Oui. Et qui peuvent parfois être très étonnants.
Et ben, on vous embrasse très fort avec ces enfants qui se transforment et ce bain vertical.
Je vous remercie.
Merci de nous avoir accueillis si tôt chez vous. Au revoir, Laetitia Casta.
Au revoir.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Pardon. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis
c'est en la revue écoutez, de presse c'était sympa. De Marie-Missé.
Marie-Missé, la revue de presse. 8h20.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
C'est bien, j'aime bien, on le dit tous trois fois. Marie Missé, bonsoir.
C'est bien, c'est important parce qu'après ça peut devenir une marque ensuite pour avoir des voitures. On n'arrête pas d'entendre la déesse Inès de la Fraissance dans l'émission. Vous pouvez avoir une voiture à votre nom, vous voudriez quoi?
Un truc tout petit, tout petit.
Rolls-Royce,
voilà,
Marie Missé.
Voilà qu'on leur écoute la pub de Inès de la Fraissance sur la déesse.
Non, parce qu'on a plus de celle-là.
Alors ce matin. Atmen, oui, Edouard, à la une dans les journaux, le référendum de Recep Erdogan fait couler l'encre de La Croix, du Monde et du Figaro. Le Parisien demande, mais qui va s'occuper de nos anciens? Tandis que d'autres grands oubliés de la société française, les Guyanais, mobilisent les journalistes. Alors le Figaro insiste sur les taux de criminalité très forts en Guyane. La Croix rappelle en édito qu'au-delà de l'insécurité, la Guyane c'est un taux de chômage de 22%, des jeunes en difficulté de lecture à 48%, et raconte que face à la grève générale annoncée, la ministre de l'Outre-mer refuse de faire le voyage, ce qui n'envoie pas, euphémisme de l'éditorialiste, le meilleur message. Alors que Libé précise qu'une délégation interministérielle est bien arrivée quand même en Guyane samedi, bon, sans la ministre.
Délégation sans la ministre. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devait faire d'autre, la ministre?
Écoute, et je n'ai pas eu le temps. Voilà. Pierre Philippe raconte.
Son agenda
il n'y avait pas de préfet dedans. Il voulait un préfet.
Oui, voilà, le rôle des 500 frères, un collectif contre la délinquance qui a lancé le mouvement en Guyane. Alors leur description à ces 500 frères, des hommes cagoulés, armés de t-shirts ornés d'armes à feu et d'une épée, avec une démarche assurée. Les 500 frères ne veulent parler que de sécurité. S'il s'agit de parler d'énergie, d'enseignement, de santé, ce sont les syndicats socio-professionnels qui le feront, disent-ils. Les oubliés, ça semble vraiment être un thème de cette campagne présidentielle, comme ça l'a été aux États-Unis. Dans les échos, on s'intéresse aux éleveurs bretons qui, quand ils gagnent 1 200 € par mois en couple, sont vus comme des gens qui s'en sortent. D'autres, en effet, témoignent. Avec ma femme, on travaille 70 heures par semaine. On touche le RSA. On ne parvient pas à se payer. Ceux-là sont jeunes. Ils envisagent de passer au bio, estiment que l'agriculture aux pesticides s'est terminée, qu'il fallait juste écouler les stocks de poudre de la Seconde Guerre mondiale. Mais passer au bio, c'est encore des investissements, rappelle-t-il. Or, quand les quotas laitiers ont été terminés dans l'Union européenne, la FNSEA a encouragé beaucoup d'agriculteurs à des investissements massifs pour produire plus, pour gagner plus. Résultat, les dettes s'accumulent. Les agriculteurs ne se sentent pas écoutés. Certains, interrogés par les échos, sont franchement européens, car les Allemands achètent beaucoup de fromage. D'autres estiment, encore une fois, qu'il n'y a que Marine Le Pen qui les écoute. On se fait trop chier, il n'y a pas de 4G. Le département de l'Orne que personne ne connaît. Alençon, on va te la mettre à l'envers. Allo-blé.
Attendez, on connaît très bien l'Orne.
C'est très bien.
Il y a un nouveau magasin fermé. Une minute de silence. Alençon est décédé. Ça, c'était les paroles d'un rap d'un jeune d'Alençon qui est retranscrit par Le Monde de ce week-end, qui a été diffusé sur YouTube en 2014 et qui a fait, comme on l'imagine, un gros scandale local. Le Monde rappelle que Alençon, c'est la ville du rappeur Orelsan, que la scène culturelle y est très vivante, qu'il y a un théâtre scène nationale, un parc des expositions, une scène de musique actuelle qui cartonne. Orpheline de son industrie, lit-on, la ville n'a franchement pas de raison de se plaindre. Question offre culturelle. Sauf que l'article se termine sur le même thème qui a fait dire à un journaliste du New York Times il y a un mois que les villes moyennes françaises se meurent car le centre est vide. Tout le monde se déplace en périphérie et espère la réouverture de la brasserie La Re pour que le centre revive, La Re pour la renaissance. Tout un programme. Tout en s'interrogeant sur ce sentiment en France et ailleurs de tant de gens qui semble être délaissé, abandonné sur le bord de la route et qui touche dans la presse ce matin au hasard les Guyanais, les personnes âgées, les agriculteurs, les habitants de Ville-Moyenne. On peut se consoler en lisant ce beau et long reportage du site Le 4 Heures sur Martine Donnette et Claude Diot. C'est un couple de septuagénaires qui se bat depuis 30 ans contre les hypermarchés et pour les petits commerces, contre l'agrandissement et l'installation de grandes surfaces en périphérie. Martine, elle, elle a tout perdu quand elle a lancé son magasin dans un carrefour. Depuis, elle épluche tous les dossiers qu'on lui donne et intente des procès en justice pour sauver les petits commerçants. D'abord depuis sa petite caravane où elle se gelait les miches, puis depuis sa voiture. Le couple de septuagénaires parcourt 8000 km par an pour aider d'autres personnes comme eux. En ce moment, l'ancienne commerçante planche sur une quinzaine de dossiers et tente en parallèle de faire bouger la loi pour empêcher les hyper de faire n'importe quoi. Je joue au jeu des 7 erreurs, dit-elle. J'ouvre un dossier et je me dis, qu'est-ce et où vont-ils avoir triché ? Explique la juriste autodidacte. L'article finit sur une note cependant qui n'incite pas à l'espoir. Si ce n'était que la grande distribution, ce serait facile, dit-elle. Notre problème, ce sont les élus qui modifient la loi au fur et à mesure. Au point de flancher, se demandent les journalistes qui l'interrogent. Eh bien, demander à Martine ce qui est susceptible de la faire raccrocher, c'est s'exposer à une réponse sans détour. La mort.
Bon alors, ok, d'accord. Donc on est contre les hypermarchés, on est contre les grands centres commerciaux, on est contre les OMG, on est contre les... Mais réconciliez-vous avec l'époque. Dans hypermarché, il y a le mot hyper, c'est super, c'est enthousiasmant. Il y a des lumières, il y a du choix. Et puis toutes ces zones d'entrée de ville, c'est très beau. Là, l'eau chaussure, Z,
on la foire. On sait quand même cet article qui est très chouette.
Commerces. C'est dans quoi ce commerce?
Ça s'appelle Le 4 Heures et c'est un couple, en tout cas, qui a de la foi à revendre.
Les petits épiciers avec les timbres, les timbres qu'on connaît.
Je vais taper un petit peu sur la table pour faire une animation sonore maintenant.
D'accord.
Ah, c'est bien.
C'est pas bien. Vous êtes très lèche-cul, Armel. Non, ce n'est pas bien. Ça m'est juste passé dans la tête. Ça m'a traversé l'esprit. Je me le suis autorisé.
Refais-le pour voir.
C'est extraordinaire.
La signification.
Regardez, vous allez voir. Atmen, faites-le vous. Non, c'est pas bien.
C'est pas bien.
C'est pourquoi ? Eh ben, je ne sais pas. C'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Non, t'y a pas.
C'est moins bien. Vous, c'est le côté
parce
un peu hyper.
Parce que vous l'avez décrété.
Moi, c'est de quartier, c'est de proximité. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
C'est pas méchant, parce que comme c'est un instrumental, on peut l'arrêter, parce que ça va être le journal de Thierry Paré avec un tout petit peu de retard. Il est 8h31 à peu près.
Alors oui, alors le plan Marshall a démarré... Non,
Atmen, vous voyez, ça marche pas.
Bah oui, pourquoi c'est pas moi alors. C'est pas,
bah,
c'est
surtout, il faut préciser ce qu'est un plan Marshall, Atmen, maintenant.
Voilà.
Qu'est-ce
qui...
N'était pas là.
Merci, Edouard. Donc un plan Marshall pour la Guyane, on va dire pour faire court, une aide économique et sociale. La Guyane, collectivité territoriale de plus de 250 000 habitants, enregistre un taux de chômage de 22%. C'est dans ce contexte que les 37 syndicats réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais appellent donc à la grève générale balles à partir de ce lundi.
Donc après la guerre en Europe, il a fallu reconstruire, et particulièrement en France.
C'est
donc le plan Marshall, c'est ce député Marshall qui a décidé de prêter massivement à l'Europe et principalement à la France un des tools défiant toute concurrence qui nous a permis de reconstruire la France.
Et particulièrement
à Alençon, dont on parlait tout à l'heure, et la ville de Saint-Lô qui avait été bombardée, qu'on appelait la capitale des ruines.
Et il fallait importer des produits américains en échange.
Plus d'une centaine de pays
lancent aujourd'hui à l'ONU des négociations inédites sur un traité interdisant les armes nucléaires, conformément à une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre dernier. Une terrible...
Combien y a-t-il de membres à l'Assemblée générale du Conseil des Unis ? Combien ont le droit de veto ? Combien
Il y en a 9, dont
5 permanents. Il y en a 3 qui tournent et 5 sont permanents. À tout de suite.
Une terrible tragédie, c'est ainsi que l'armée américaine...
Je suis le Laurent Deutsch du journal.
Une terrible tragédie, c'est ainsi que l'armée américaine qualifie la mort de nombreux civils dans des frappes aériennes à Mossoul. Oui. Ces derniers jours, les frappes de la coalition contre l'État islamique font de plus en plus de victimes civiles. D'un bout à l'autre de la Russie, des milliers de personnes ont marché contre la corruption hier, suivant le mot d'ordre lancé par l'opposant Alexis Navalny, candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain.
D'un bout à l'autre, voulez-vous lui dire de l'Ukraine à la Sibérie ou à simplement une expression
Non, de Moscou jusqu'à Vladivostok.
Mondonome, c'est le nouveau livre de...
Et on va noter que cet opposant Navalny a été arrêté hier avec plus d'une centaine d'autres manifestants. Le parti socialiste bulgare double son score aux législatives. Le PSB, emmené par Cornelia Ninova, a obtenu 28% des voix hier. C'est un bon résultat qui n'est pas suffisant pour déloger les conservateurs. Ces derniers ont obtenu, eux, 33% des voix. Boyko Borisov s'apprête donc à devenir pour la troisième fois Premier ministre du pays. Il y avait également des élections en Allemagne, des élections régionales dans la Sarre, la CDU, l'Union chrétienne démocrate de la chancelière Angela Merkel est arrivée largement en tête. Les conservateurs dépasseraient la barre des 40%, devançant de près de 10 points le SPD, le Parti social-démocrate, emmené par Martin Schulz, qui atteindrait lui tout juste les 30%. Il n'y a toujours aucune revendication après l'enlèvement d'un ressortissant français au Tchad, non loin de la frontière avec le Soudan, c'était jeudi dernier. Un ressortissant français dont l'identité n'a pas été révélée. Un stock de palettes a pris feu cette nuit dans une zone industrielle de Bondy en Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne, provoquant un spectaculaire incendie et des explosions. Il n'y a pas de blessés. La 23e édition du SIDAction, opération médiatique d'appel aux dons pour la prévention et la recherche contre le sida, a permis la collecte d'un peu plus de 4 millions d'euros. C'est en légère baisse par rapport à l'an dernier. Et puis, le winner is le Canada. Sans surprise, l'équipe canadienne féminine de curling a remporté le mondial de la discipline. Ça se déroulait à Pékin, donc en Chine.
Voilà, vous n'y étiez pas, Ahmed.
Le curling. J'ai lu un scénario génial, c'est vrai, d'une femme de ménage qui était championne de curling parce qu'elle passait le balai à fond, là.
Oui.
Et elle finissait justement aux États-Unis à faire du curling.
Et on vous proposait le rôle ?
Non.
Parce que vous n'avez pas ce rôle-là, vous n'êtes pas non plus. Je vois que vous n'avez pas été Miss France non plus.
Ah non.
Vous n'avez jamais été Miss France.
Ah non, pas du tout.
En revanche, Iris Mittenaere, elle était. Il y a un très bon papier sur elle dans Libé, et elle en dit qu'elle veut devenir dentiste. Donc il y a déjà des inscriptions. Des gens... Alors voilà, c'est tout.
Oui, non, mais ouais.
C'est tout.
Il me pousse de ses caries, là.
Très joli. Tito, peut-être la météo. Alors, c'est la météo Aznavour, toujours ça ?
Toujours, ouais, pour ce matin. Viens voir les beaux nuages, voir le beau soleil qui arrive en France. Laïlo, 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 laïlo. Mais ouais, c'est le printemps. Alors écoutez-moi tous. Aujourd'hui, les températures seront à Bordeaux entre 7 et 19, à Brest entre 9 et 19, à Dreux entre 8 et 18, Marseille entre 6 et 16, Montpellier entre 6 et 17, Paris entre 8 et 19, Reims entre 7 et 17, Tours entre 8 et 19 et Casablanca entre 7 et 19.
Merci Tito. Juste avant de rejoindre Jacques Sournarue, il y a notre ami Yacine Benatar qui est arrivé un peu tôt avant les 30 Glorieuses. Salut Yacine.
Bonjour Edouard.
Alors peut-être il y a des gens qui se recouchent à 9h qui n'ont pas la chance d'écouter ton émission bien avec sûr. Thomas. Je veux juste de dire que j'ai été t'écouter te voir à la Nouvelle Ève.
On était tous. C'était un spectacle magnifique,
j'étais épaté. Je ne sais pas si c'est du one-man show, du stand-up, si c'est du journaliste, de la politique, du spectacle, de l'art, de l'actorat, si c'est, il y a même un côté presque religieux, tu arpentes la scène,
c'est un prédicateur,
il y a une vision des choses formidables et les gens, et vraiment bravo. Merci. C'est un spectacle que je trouve que tu pourrais. Est-ce que tu n'as pas envie tous les soirs de prendre le journal et de nous raconter ta vision de l'époque ?
C'est un projet que j'ai avec Bernard Zécry qui est derrière moi.
Oui.
J'ai appris ce week-end qu'il est bientôt naître la chaîne Nova TV.
Oui, et tu te places.
je me place avec toi entre les recettes d'Atmen de cuisine, les striptease de la Chouchouka. On peut faire une grille des programmes.
Il te reste plus que deux dates à la Nouvelle Ève, mais
absolument.
Et je sais que tu vas faire une soirée au Bataclan aussi.
Au Bataclan,
le 4 mai.
Et le spectacle s'appellera comment ?
En attendant Marine.
En attendant.
On y va, Edouard. On y va. Donc autant en profiter.
Je suis une impatience.
Passe une très bonne soirée.
Bravo et merci Yassine. Tout de suite dans la rue à Toulouse avec Jacques Souvent.
Ici, moi, je me fais engueuler par Sylvie parce que c'est les minutes de coiffeur, elle me dit. Et là, elle va rater maman.
Non, maman, ça y est, je l'ai loupée puisque je devais l'appeler, elle est partie. Mais c'est surtout que je vais être en retard chez le patient d'après.
Donc le pied est sur le pédalier, prêt à partir. Et puis moi, je vous retiens depuis 5 minutes.
Oh, facile.
Sylvie, bonjour Sylvie.
Bonjour.
On n'arrive pas bien à visualiser ce qui se passe ce matin à Toulouse. Donc vous étiez en train de parler à votre mère et vous allez partir à vélo ?
Exactement. Non, j'allais appeler ma mère, qui m'a appelée pendant que je faisais un soin. Donc, je n'ai pas pu lui répondre. Mais là, maintenant, elle est à la gym. Donc, je l'ai loupée. Votre acolyte m'a interpellée alors que je démarrais sur mon vélo.
Alors, il y a un mélange de maman fait de la gym et ma fille fait du vélo. Donc, il y a un mélange de dictons, là, c'est traditionnel. Quel type de soin pratiquez-vous, Sylvie ?
Alors là, je vais faire une piqûre.
Oui.
Je suis infirmière à domicile. Voilà.
Et là, vous l'avez dit comme
une... Je viens de faire un pansement et je vais faire une piqûre.
On en est où en France de cette peur de la piqûre, de cette peur de la seringue ? Est-ce que ça s'arrange ?
Alors, la peur de la piqûre, elle existe, mais si l'infirmière est gentille, ça se passe bien.
Qu'est-ce que vous appelez gentille, Sylvie ?
Il faut arriver en souriant.
Oui.
Toujours.
Oui, je note.
Pour rassurer le patient.
Je note pour Atmen qui... Oui.
Lui dire que forcément, ça va faire très, très mal.
Ah oui.
Ils vont énormément souffrir et qu'ils vont penser à moi toute la journée.
D'accord.
Et puis du coup, ils n'ont pas mal du tout.
Ça ne marche plus le côté de la petite piqûre qui ne fait rien, ça ne va pas faire mal. Il faut dire le contraire, en fait.
Exactement. Comme ça, ils s'attendent à ce que ce soit terrible. Et puis, ils disent, mais non, finalement, je n'ai pas eu mal.
Donc
tout va bien.
Il vaut mieux avoir une épouvantable réputation, comme ça, les gens sont déçus en bien.
C'est ça, exactement.
Elle est très bien, votre technique, Sylvie. Et votre maman qui fait de la gym, elle a quel âge, alors ?
Maman a 70 ans.
Ah oui, ça va, d'accord. Elle peut encore... Ce sont des gymnastiques souples, on est sur des choses un peu...
Elle fait de l'aquagym, exactement.
C'est une plongée de son corps en milieu aquatique.
C'est ça.
Et donc, le volume d'eau qu'elle occupe est en fait déplacé vers le haut.
C'est ça. Tant qu'elle n'a pas la tête sous l'eau, ça continue à aller bien.
Sylvie, on vous laisse pédaler vers votre destin,
oui,
aller piquer des culs, des bras.
Elle me tire les cheveux pour y aller.
C'est un moment d'érotisme aussi. Est-ce que parfois, Sylvie, vous arrivez, il y a un monsieur qui vous reçoit en peignoir et qui se méprend entièrement sur votre venue ou ça n'arrive pas ?
Non, ça n'est jamais arrivé. Beaucoup me reçoivent en peignoir, voire même sans peignoir.
Oui.
Mais les intentions sont toujours très honorables.
Très bien. Bah, je serais ravie de me faire piquer par vous à l'occasion, chère Sylvie.
Ah bah, écoutez, ce sera un plaisir de vous piquer.
De passage à Toulouse. Grosse bise, Sylvie.
Moi aussi, grosse bise. Au revoir.
Au revoir.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Intermarché.com, oui, ça donne envie d'y aller. Tout ça.
Il y a Monopoly, il faut y aller quand même.
Il faut y aller. Tristan Carnet, bonjour.
Bonjour.
Tristan, toutes les théories de conspiration vont maintenant converger puisque vous êtes là, puisque vous êtes le réalisateur pour France Télévisions et pour beaucoup d'autres chaînes et pour beaucoup d'autres émissions. Mais là, vous avez réalisé l'émission en direct, le grand débat des présidentielles qu'on a eu.
Le dernier, oui.
Le dernier, vous allez faire le prochain aussi ? Vous n'allez pas être viré ?
Je ne sais pas encore. Ça se décide au fur et à mesure, donc on va voir.
C'est un métier très particulier, déjà être réalisateur de direct. C'est évidemment une pression incroyable. Et en plus, j'imagine qu'en politique, vous devez avoir chaque partie... vous êtes aussi arbitre, un peu comme dans le foot. C'est-à-dire, chacun doit vous dire « Attends, j'étais moins bien traité ». Comment c'est organisé, ces émissions ?
En fait, non, moi, mon boulot, c'est au moment où ça a été organisé avant par les chaînes. C'est de filmer ça de la façon la plus neutre possible. Moi, je suis là pour vraiment essayer de garder une équité parfaite entre les candidats.
Alors, c'est d'abord, évidemment, le temps de parole, l'équité.
Voilà.
Est-ce qu'il y a une question d'axe, de profil, de plan serré, de plan large ? Comment c'est fait ? Parce qu'on sait qu'au cinéma, je rappelle, le plan serré, c'est quand on voit le visage en très, très gros sur l'écran. Donc, on est beaucoup plus présent, donc on a beaucoup plus d'influence. Nos propos sont plus forts. Le plan américain, c'est quand c'est ce qu'on appelle le plan poitrine, c'est le plan quand on est assis à la télévision. Et il y a le plan large où tout à coup la parole perd de sa force. Est-ce que vous faites attention aussi à ce qu'il y a un équilibre entre ces plans ?
C'est vrai que c'est très juste. Et il y a même le petit zoom avant sur un plan serré qui peut encore venir renforcer un truc. Donc nous, c'est vrai que là, par exemple, typiquement, dans ce qu'on explique aux candidats, c'est qu'ils vont être traités exactement de la même façon. Le gros plan va être exactement le même. La caméra est à la même distance. La lumière est exactement identique. On les rassure justement dans le fait qu'il n'y aura pas ce favoritisme-là dans la façon de les filmer.
Alors il y a un dispositif qui est différent, puisqu'on n'est plus dans les face-à-face comme au second tour, par exemple. Quand il faut traiter 3-4 personnes à l'image, vous avez ce qu'on appelle un split screen, c'est-à-dire ouais. qu'on voit les candidats à la fois. Là quand même, puisqu'ils s'interrompent les uns les autres, il y a le réalisateur, il a une responsabilité de savoir si tout à coup on entend une voix qui interrompt, est-ce qu'on va sur la personne qui vient de parler
et
la caméra lui donne de l'importance, ou est-ce qu'on le laisse off quand même?
C'est les splits, et puis avant les splits, le simple plan d'écoute d'un candidat qui ne parle pas. C'est ce qu'on appelle les plans de coupe. Ça, c'est quelque chose qui était interdit, par exemple, dans le débat d'entre deux tours des présidentielles depuis 1981. C'était Moati, à l'époque, qui était le conseiller de Mitterrand, qui avait conseillé de ne pas passer de plans de coupe, de ne pas laisser le réalisateur passer des plans de coupe, parce que ces plans de coupe, ils peuvent raconter quelque chose selon qu'on soit un peu, qu'on acquiesce, ou qu'à l'inverse, on soit un peu... en train de faire une moue dubitative comme ça.
Parce qu'en fiction, c'est, on le sait, hein, parce qu'il y a la fameuse phrase de Fernandel, « Quand je parle, tu me filmes. »
Quand c'est l'autre qui joue, tu
filmes mes réactions. Et là, forcément, on donne de l'importance à la personne. Ouais. Donc là, maintenant, vous avez le droit de filmer les écoutes.
En tout cas, c'est ce qu'on a dealé avec c'était Catherine Nel à TF1, enfin, la rédaction de TF1, qui a dealé ça avec les différents candidats. Et ça s'est passé sur le débat des primaires, sur le débat des primaires des Républicains, comme
sur François Fillon. Il y en avait des très beaux d'ailleurs, des plans d'écoute justement. Sur
Fillon. Après, l'idée c'est pas de passer des plans de coupe quand ils se grattent l'oreille ou quand ils boivent de l'eau, mais quand ils ont des.
Il y en avait des mystiques un peu.
C'est-à-dire que François Fillon, après qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, quand il écoute, je sais pas si le fait qu'il soit laminé par toutes ces affaires, ça lui donne tout à coup des fatigues à la télévision. C'est assez agréable de voir quelqu'un. Il y a une sorte d'empathie qui se crée pour la personne.
Il y avait un précédent sur l'histoire des plans de coupe qui était un débat entre Jean Le Canuet et Maurice Couve de Murville. Donc ça remontait un petit moment, fin des années 60, où on voyait Couve de Murville qui s'essuyait, qui s'époustait en fait son veston pendant que Jean Le Canuet...
Couve de Murville, l'ancien ministre des Affaires étrangères et premier ministre du général.
Absolument. Et qui époustait sa propre veste pendant que Le Canuet, donc son adversaire, amenait ses arguments. Donc ça peut être terrifiant d'efficacité, effectivement, un plan de coupe. Il vrai que c'était à partir de ce moment-là que ça a été plus ou moins proscrit. Donc c'est le retour du plan de coupe dans les débats politiques, avec vous.
Voilà, donc après, on va voir si pour le débat d'entre deux tours, qui est le débat un peu phare de l'élection, parce que c'est la finale et le face-à-face, si pour ce débat, on va réussir à réintégrer les plans de coupe, ce serait formidable. Mais je ne vois pas comment, en fait, les candidats et les partis et les conseillers peuvent faire marche arrière sur cette question.
Alors Tristan, je sais que vous êtes apolitique, vous êtes juste marié à la fille de François Hollande. dites-moi une chose, il y a aussi un autre, dans les émissions politiques à la télévision, et particulièrement au débat, il y a un autre langage, c'est celui, les plans sur le public. C'est une chose qui est très importante pour nous, en tant que spectateurs, de voir si le public acquiesce ou pas. Et vous m'avez dit que derrière chaque, ils ont droit à 4 places, chaque candidat bien à vue à la télévision.
C'est ce qu'on appelle le fameux fond de gros plan. Ça dépend des émissions. Par exemple, sur les primaires, le fond de gros plan, c'était une espèce de toile tendue. Donc là, on ne voyait pas trop le public. En revanche, sur le débat à 5, là, le fond de gros plan, c'était les soutiens.
Le panel de soutiens.
Chaque candidat choisit 4 invités qu'il veut voir passer à la télévision.
Chaque candidat, en fait, est venu avec beaucoup plus que 4 soutiens, c'est-à-dire il y en avait une dizaine. En revanche, il y en avait 4 qu'on voyait régulièrement à l'antenne parce qu'ils étaient vraiment dans l'axe de la caméra. C'est-à-dire on avait prévenu les candidats qu'il y avait 4 places sur les, je sais pas, 15 ou 20 soutiens qui étaient là par candidat, qui seraient très à vue.
Avec des têtes de chien comme à l'arrière de la bagnole, genre Philippot qui fait ça tout
voilà,
le temps,
exactement.
Toutes les phrases.
Ils ont choisi ceux qu'ils allaient mettre en place, et après on les a plus ou moins vus selon qu'ils soient, se soient bien placés ou pas.
Ça a toujours un sens politique, on met tout le temps quelqu'un qu'on veut mettre en avant, ou parfois c'est juste où est-ce que quelqu'un peut venir, par exemple, avec Miss France ou avec des choses plus pour faire.
Chacun peut venir avec qui il veut, mais effectivement, ça a un sens. Après, comme on le voyait, là, Philippot, exactement, qui acquiesce en permanence, même un peu trop d'ailleurs, à tous les propos de Marine Le Pen, ou derrière Fillon, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai vu qu'il y avait certaines émissions qui expliquaient qu'elle essayait de rentrer un peu dans le cadre, parce qu'elle était un peu justement au bord de ses 4 places. Elle était peut-être la 5e.
Mais parce qu'ils se voient dans un petit écran à côté,
oui,
où quelqu'un leur retours, dit,
donc ils voient un peu les retours d'image. Donc, comme dans les émissions de jeu, un peu, on voit les soutiens qui essayent de rentrer dans le cadre. Comme ça.
Alors, je rappelle, vous êtes apolitique, Tristan Carnet, puisque vous êtes marié à la fille Mélenchon. dites-moi une chose, on a beaucoup parlé de cette histoire que François Fillon recevait des textos pour le conseiller pendant l'émission. En quoi est-ce que c'est si choquant? Les gens disent, oui, c'est comme si on trichait au bac. Je n'ai pas compris cette polémique.
Mais alors... Effectivement, c'est assez fou parce que cette histoire, je ne l'ai pas vue, moi. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir que chaque candidat vient en plateau quelques minutes avant le direct. ils posent sur le desk qui est devant eux plusieurs papiers ou des, un stylo. Et a priori, effectivement, M. Fillon avait son portable. Après, moi, pendant le débat, je regarde surtout donc, ces fameux gros plans dont vous parliez, Edouard, qui me permettent de voir justement les réactions. Donc, je ne fais pas très attention à voir si, effectivement, il avait la tête trop baissée, mais il ne l'avait pas tant que ça. En revanche, dire qu'il a tapé des textos lui-même, je ne pense pas qu'il l'ait fait, qu'il en ait lu, c'est pas impossible qu'il l'ait fait.
Alors, dans ce langage télévisé moderne, on imagine bien qu'il y a des choses qui seraient quasi éliminatoires, par exemple, avoir une tache, avoir quelque chose entre les dents. Est-ce que vous, dans ces cas-là, vous allez le dire au candidat si tout à coup on s'aperçoit qu'il y a des pellicules, qu'il y a des choses? On imagine bien que ça focaliserait toute l'attention et ça affaiblirait le propos aujourd'hui à la télévision.
Oui, alors il y a un moment dont je peux parler, parce que pas mal de gens l'ont vu, mais c'est le débat qu'il y avait eu entre Alain Juppé et François Fillon, justement, où Alain Juppé a eu une
arrivée de fromage, un peu, comme on dit.
Un petit peu de salive, oui, à la commission de salive.
Voilà. Et donc là, effectivement, quand c'est un débat à deux, ce petit point de salive blanc qui apparaît, c'est un énorme problème pour...
Ça décrédibilise. Oui, t'as con, ouais. On focalise là-dessus, on n'écoute plus.
Alors voilà, donc là, le plan de coupe, à la rigueur, il m'a presque aidé, parce que j'ai pu passer un plan d'écoute du candidat adverse, puis un plan large, puis un plan d'un journaliste, mais en attendant que ce petit point de salive s'en aille. Mais il ne partait pas. On faisait signe aux journalistes de dire au candidat Juppé de faire de s'essuyer la commission de la DEF comme ça, mais il ne regardait pas les journalistes, donc il ne le faisait pas. Et ce point est resté. Il est resté si longtemps qu'il a commencé à être énormément commenté sur les réseaux sociaux. Les gens ne voyaient plus que ça. Ce qui est assez terrible, parce que du coup, on a quelque chose de physique comme ça qui est gênant et qui attire tellement le regard qu'on ne se concentre plus sur ce qu'est en train de dire le candidat. Et ça a duré comme ça jusqu'au moment où on s'est fini.
Mais au débat aussi, il y a eu ce bracelet derrière Marine Le Pen qui n'arrêtait pas de scintiller et qui était viré après l'entracte.
Oui, on a eu un point. Alors je ne me souvenais plus que c'était un bracelet ou une montre.
C'est un bracelet qui clignotait.
Qui prenait un reflet de la lumière de Marine Le Pen et qui du coup faisait un petit effet.
Il y a des théories de conspiration. On dit qu'on peut mettre des gens qui hypnotisent face au candidat. On avait raconté que Trump se mettait exprès derrière elle pour la décontenancer. Vous avez surpris, vous, en tant que réalisateur, des choses comme ça entre les candidats et leurs équipes, des intimidations avant le direct?
Non, des intimidations, non, mais après on sent qu'il y a effectivement que tout ça est très observé. On est nous-mêmes très observés. D'ailleurs, avant l'émission, on nous pose toujours des tas de questions pour savoir comment ça va se passer, etc. Et on sait qu'il faut qu'on fasse hyper attention à l'équité de ce débat, parce que si précisément il se passe un truc pendant l'émission, je sais pas, il peut arriver. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur beaucoup d'émissions en direct que je fais qu'une panne technique arrive, genre une caméra. Donc là, par exemple, une caméra qui tombe en panne sur un des candidats, c'est tout de suite quelque chose qui va être interprété.
D'ailleurs, j'imagine que, bon, Tristan Carnet aussi, vous êtes apolitique, vous êtes marié à la fille Le Pen. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent votre tête? Est-ce que c'est arrivé tout à coup, des gens qui vous font porter le chapeau de leur mauvaise prestation?
Non, jusque-là, non. Non. Pour l'instant, je suis accepté, on va dire, de tous les partis, peut-être parce que je suis le fils de pas mal de...
Vous avez beaucoup de filles de... merci Tristan, bonne chance pour le débat, et puis on essaiera de vous faire passer des petits billets pour vous fassiez des gros plans sur nos candidats.
Absolument, allez-y, je vais vous donner mon travail.
Merci Tristan Carnet.
Bravo.
Car maintenant, il y a le live qui se prépare et on a une invitée formidable. À tout de suite. Merci.
7h-9h plus près de toi.
Alors, on est à l'antenne. Bonjour Edouard.
Bonjour Rudy, on est là dans le Café Nova à côté. Il y a beaucoup de monde ce matin ? Ouais ! Bien entendu, je fais des gestes. Alors, racontez-nous, parce que là, c'est vraiment une découverte, Rudy.
C'est une découverte Nova. C'est Niloufer Yania. Nous sommes hyper intimidés ce matin. C'est notre toute première rencontre avec elle, cette artiste pour qui nous avons eu un vrai gros coup de cœur il y a quelques mois lorsque nous étions tombés sur cette couverture de Pixies tellement surprenante et belle qu'elle en
faisait. C'est quoi Pixies ?
Pixies, c'est un groupe de rock.
Oui, je le sais, mais voilà. Je suis l'auditeur. Moi, je vous demande de me rappeler des choses.
C'est bien, il faut constamment me relancer. Donc, cette couverture, elle en faisait oublier l'original tellement elle était belle. Alors, Niloufer n'a jamais joué à Paris, alors qu'il est, elle n'a que 4 chansons à son actif. Mais
We talk about you.
Nous sommes extrêmement fiers qu'elle soit venue exprès de West London ce matin pour sa toute première radio française.
You come directly from London this morning?
Yesterday
night.
Elle
est arrivée yesterday. Alors ne mentez pas, ne dites pas qu'elle est venue ce matin.
Avec nous, vous comprenez bien.
D'accord. Enfin, first radio in France and maybe the last one. Non, pardon, c'est peut-être la dernière. Non, pas du tout. Je dis que c'est la première et la dernière. Ce qui est
là, t'es en train de la mettre en confiance.
Pardon,
ce qui est
pas
bien
du tout, mais non.
Alors, j'ai un peu enquêté. Nilüfer a 21 ans. Son prénom est turc, puisque
c'est
son
pas une
papa
enquête, vous l'avez, oui,
vient de là-bas. Oui. Elle a commencé le piano à 6 ans, la guitare à 12. Elle chante depuis quelques temps. Et aujourd'hui, en 4 titres, elle a déjà réussi à mettre Londres à ses pieds avec cette voix assez hors norme, juvénile, mais pourtant d'une grande maîtrise. Mais ce n'est pas le plus important, car
c'est quoi,
aussi jeune soit-elle, Nilüfer est surtout très engagée dans une cause, celle des réfugiés, pour qui elle a monté un collectif avec sa sœur qui s'appelle Artists in Transit, qui est destiné à animer, amener l'art sous forme de workshop dans les camps de réfugiés. Elle sera par exemple ce vendredi à Athènes. Il y a aussi un concert demain à
D'accord,
Paris.
Mais ne dites pas que c'est ça le plus important. L'autre,
ah, c'est
sur
elle,
métier
elle
d'artiste
elle
aussi. Nilüfer, who is playing with you today? Qui joue avec vous aujourd'hui?
Jazzy Bobby.
Jazzy qui l'accompagne au saxo.
C'est old time friend.
Yeah, we've been friends since.
Combien d'années? Vous étiez à l'école ensemble. No battle, no fight, always a good atmosphere. Tout s'est bien passé. Une interview entièrement bilingue. Bilingual interview. OK, pardon, merci. On écoute.
On est bien, on est là, on va commencer.
Vous annoncez un concert ou pas?
Demain au Divan du Monde pour le festival Les Femmes S'en Mêlent.
Les Femmes S'en Mêlent, demain au Divan du Monde, vous serez là.
Très bien. Femmes S'en Mêlent.
On est très heureux de vous
accueillir. Nilüfer Yanya, welcome. Premier titre, c'est cette fameuse cover de Pixies, Hey.
Voici les 30 Glorieuses. Très belle journée à tous et au plaisir de votre présence.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.